Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Où en sommes-nous avec le Saint-Esprit ? Par définition, ça signifie ou ça sous-entend que nous devons vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Et quand on dit « où en sommes-nous », ça veut dire qu'il y a plusieurs positions ou plusieurs situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. D'accord ? Et vous savez, je l'ai déjà annoncé la couleur, c'est que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous allions loin avec le Saint-Esprit. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous allions de gloire en gloire avec le Seigneur. Et la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 3:18, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc quand nous passons du temps comme ça dans la présence du Seigneur, nous reflétons sa gloire et nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc ce qui veut dire que nous pouvons être dans différentes positions et que la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas encore la destination finale. Donc plus nous avançons avec Dieu, plus nous marchons, nous voyons que tout d'un coup il y a encore d'autres dimensions et d'autres choses qui s'ouvrent à nous. Et vraiment mon désir et ma prière pour ce week-end est encore bien au-delà, c'est que nous puissions entrer, si on peut dire, dans une dimension supérieure avec le Saint-Esprit. Et que chacun d'entre nous, à la fin de ce week-end, on puisse dire, non, vraiment, le Seigneur m'a amené quelque part où je n'étais pas encore. Le Seigneur m'a amené quelque part que je ne connaissais pas. Et l'une des paroles que Dieu nous a données pour notre ministère, c'était que nous allions amener les gens dans des endroits que je ne connaissais pas. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et notre désir, notre cœur, c'est vraiment encore de vous amener à un endroit que vous ne connaissez pas. Et quand nous le faisons, nous-mêmes aussi, nous découvrons encore davantage. Et vous savez, ça fait déjà quelques années que j'ai la grâce de marcher avec Dieu et d'exercer le ministère aussi. Mais quand je regarde un petit peu en arrière, je vois que je ne suis pas au même point que là où j'étais lorsque j'ai commencé.
Amen.
J'ai commencé à enseigner la parole de Dieu à l'âge de 17 ans dans une cellule de maison et j'étais très timide, j'étais très balbutiant, mais petit à petit, Dieu m'a fait avancer. Et vous savez, plus vous vous plongez dans la parole de Dieu, plus vous voyez cette parole confirmée dans votre vie par la puissance. Et l'un des fondements de notre ministère, c'est fondé sur la parole et conduit par l'Esprit. Et nous avons besoin de ces deux fondements pour marcher dans l'équilibre et pour que Dieu puisse vraiment se glorifier dans nous. Vous savez, si on est seulement que collé dans la parole de Dieu, mais qu'on néglige le Saint-Esprit, on passe à côté de quelque chose et on devient tout simplement religieux. Mais par contre, si on aspire seulement à des petites manifestations spirituelles qu'on attribue au Saint-Esprit, même si quelquefois ce n'est pas tout à fait le Saint-Esprit, on risque aussi de dévier dans des choses qui ne sont plus l'œuvre du Saint-Esprit parce que nous ne sommes pas entrés dans la parole qui nous évite de tomber dans des erreurs religieuses. Donc on a vraiment besoin de faire travailler ensemble la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on veut expérimenter encore ensemble pendant ce week-end. Amen. Et vous savez, j'ai déjà une bonne nouvelle pour vous. C'est que chacun d'entre vous, si vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit en vous. Hein? La parole de Dieu nous le montre. On peut regarder dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean, pardon, chapitre 20. Jean chapitre 20 et au verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Donc, dans ce passage, on va voir quelque chose d'intéressant où Jésus apparaît aux disciples. Donc, Jésus était mort. D'accord ? Il apparaît aux disciples et il nous est dit ici, à partir du verset 21, Jésus leur dit : la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, verset 22, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Et en fait, à ce moment précis de l'Écriture, c'était la nouvelle naissance des disciples. Alors peut-être que ça va vous surprendre, mais pendant tous les évangiles, Jésus prêchait, Jésus enseignait, mais personne ne pouvait naître de nouveau. Hein? Parce que la nouvelle naissance, telle que le dit l'Épître aux Romains, elle n'est possible que à condition de croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc tant que Jésus n'est pas mort et ressuscité, on ne peut pas naître de nouveau. C'est logique, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu déclare aussi que pour qu'un testament soit valable, il faut que la mort du testateur soit constatée. Et or, Jésus nous a laissé un testament et des promesses, et pour qu'elle soit valable, il fallait qu'il soit mort. Donc avant que Jésus soit mort, même tout ce qu'il a enseigné n'était pas encore disponible pour les gens qui l'écoutaient. Jésus enseignait le royaume de Dieu, mais les gens n'étaient pas encore nés de nouveau parce qu'il fallait qu'il soit mort et ressuscité. Et je te rajoute un argument, l'Épître aux Hébreux dit aussi que par sa mort, il a inauguré une route vivante et nouvelle vers le Père. Donc on voit que la mort de Jésus était indispensable. Et à ce moment-là, donc, on a les disciples qui... Jésus vient vers eux, et puis il nous est dit, verset 22, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et en réalité, ce passage n'est pas exactement très bien traduit, et je ne sais pas quelle version vous avez de vos Bibles, mais si vous avez une bonne version, une meilleure que la mienne, normalement, il devrait être écrit, il souffla en eux. Hein? Dans le texte original, normalement, c'est il souffla en eux. Mais nos Bibles disent sur eux, parce que pour nous, c'est plus logique de dire qu'on souffle sur quelque chose. Et vous savez, les traductions de la Bible, il y a des fois des petites choses comme ça qui ne sont pas exactement précises. Mais quand vous lisez les textes originaux dans le grec et l'hébreu, vous vous rendez compte qu'il y a des notions qui ne sont pas exactement bien représentées. Et ici, dans le texte original, ça dit « il souffla en eux ». Et pour nous, dans l'intelligence, ça peut paraître bizarre, parce qu'on dit « non, on ne souffle pas dans quelqu'un, on souffle sur quelqu'un ». Mais ce que ça veut dire ici, c'est que quand Jésus souffla en eux, en fait, il a mis le Saint-Esprit en eux. Ce qui veut dire que désormais, le Saint-Esprit habite en eux. Il n'a pas seulement soufflé sur eux comme pour leur communiquer quelque chose qui arriverait sur eux de manière extérieure, mais il souffla en eux, de la même manière que Dieu le Père au commencement souffla dans l'homme un esprit, et l'homme devient une âme vivante. Et de la même manière, Jésus a soufflé dans les disciples son esprit, il a dit « recevez le Saint-Esprit ». Donc quand vous naissez de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit. Mais maintenant, ce n'est pas terminé, parce que si vous regardez un peu plus loin dans Actes chapitre 1er et au verset 8, Actes chapitre 1er et verset 8, ces mêmes disciples à qui Jésus avait dit « recevez le Saint-Esprit », il leur dit aussi, Actes 1 verset 8, « Mais vous recevrez, au pluriel, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et là, c'est bien sur vous. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc là, juste au moment où Jésus allait monter au ciel, il a annoncé à ses disciples, « Ok, j'ai déjà mis le Saint-Esprit en vous, mais maintenant aussi vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit sur vous. » Donc déjà, on voit qu'il y a une différence entre le fait que le Saint-Esprit habite en nous et le fait aussi qu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit sur nous. Donc là, déjà, il y a deux étapes différentes dans lesquelles Dieu veut nous faire avancer et grandir. Mais avant de développer ça, j'aimerais vous montrer encore dans l'Épître aux Corinthiens que le Saint-Esprit demeure en nous, que nous sommes et vous êtes une habitation de Dieu. Et d'ailleurs, je vous encourage, si ce n'est pas fait, à avoir des papiers et des stylos, parce qu'on va beaucoup mentionner la parole de Dieu. Okay, quand on fait un séminaire comme ça, c'est bien de prendre les références, c'est bien de chercher et de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne, et après de travailler pour que Dieu puisse vraiment nous amener aussi à vivre ce que Dieu veut que nous fassions. Ce n'est pas seulement une prédication, ce n'est pas de l'évangélisation, c'est vraiment de l'affermissement, c'est vraiment l'enseignement de la parole. Et même... vous enseignez la parole, parce que lorsqu'on prend ce temps-là à étudier la parole de Dieu, on est en train de se qualifier à ce que maintenant le Saint-Esprit puisse venir aussi confirmer la parole. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, et au verset 16, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens de nouveau, il leur dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc quand ils disent cela, ils ne posent pas la question « Est-ce que vous êtes un temple de Dieu ?» Ils ne posent pas la question « Est-ce que l'Esprit habite en vous ?» Ils disent « Ne le savez-vous pas ?» Ce qui veut dire que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Maintenant, il faut aussi le savoir et en prendre conscience et vivre de manière à ce qu'il puisse se manifester. Un petit peu plus loin, à Corinthiens, toujours, chapitre 6, et verset 19. C'est toujours Paul qui parle, on parle toujours aux mêmes chrétiens de Corinthe, et il leur dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » hein? Donc là, c'est comme s'il avait besoin d'insister, de dire « Non, mais il est vraiment en vous, vous êtes vraiment l'habitation de Dieu. » Et ce soir aussi, à chacun d'entre vous, la parole de Dieu s'approche et vous dit « Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. » Amen. Est-ce qu'on peut peut-être dire ça ensemble? Le Saint-Esprit est en moi.
Le Saint-Esprit est en moi.
Amen. En tout cas, il est en moi et ça change tout. Alléluia. 2 Corinthiens 6 maintenant et au verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc là, Paul laisse entrevoir maintenant que individuellement nous sommes une habitation de Dieu, mais aussi ensemble, en tant que peuple de Dieu, nous sommes la demeure du Dieu vivant. Et dans l'Ancien Testament, on a plusieurs exemples de demeures, de temples ou de maisons dans lesquelles Dieu avait choisi de manifester sa présence. Hein, vous avez par exemple le tabernacle dans le désert, qui est un endroit que Dieu avait ordonné de construire et dans lequel Dieu avait dit « Non, maintenant j'habiterai dans ce tabernacle au milieu de mon peuple. » Et dans la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament, nous voyons à travers cet enseignement que désormais, l'habitation ou la demeure de Dieu, c'est nous en tant que croyants. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple dans lequel il veut demeurer. Donc s'il demeure, ça veut dire qu'il est là et de manière permanente. Alléluia. Et même si quelqu'un n'est pas vraiment dans le mouvement du Saint-Esprit, si on peut dire ça comme ça, ou même si quelqu'un ne recherche pas vraiment le baptême du Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit, je vais expliquer ça un petit peu tout à l'heure, quand même le Saint-Esprit est en lui, du moment qu'il est né de nouveau. Donc même certains de nos frères que nous pouvons considérer parfois, je ne vais peut-être pas dire avec mépris, mais parfois on dit oui, ceux-là, ils ne connaissent pas, même pas du Saint-Esprit, ils ne parlent pas en langue, ils ne prophétisent pas. Ok, mais quand même, ils ont l'Esprit de Dieu, s'ils sont nés de nouveau. Ok? Mais ce que nous devrions désirer et rechercher, c'est à avancer pleinement dans toutes les choses que Dieu a préparées pour nous et à jouir de ce que la Bible appelle l'héritage des saints. Hein? Parce que Dieu nous a laissé un héritage et Dieu désire à ce que nous manifestions son royaume. Or, le royaume de Dieu, c'est pas seulement d'être sauvé et puis d'être content du salut et puis d'attendre que ça se passe. Ou de rester assis dans l'église et de dire « Bon, vivement que Jésus revienne nous chercher. » Le message que Jésus a apporté, que Jésus a enseigné tout au long de son ministère, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas la même chose que le salut. Le salut ou la nouvelle naissance, c'est seulement la porte d'entrée du royaume de Dieu. Et Jésus a enseigné dans Jean chapitre 3 que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Donc c'est que la nouvelle naissance, c'est nécessaire. Hein, c'est le premier passage, c'est la première chose que nous devons faire pour voir le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, peut-être que quelqu'un se demande qu'est-ce que c'est naître de nouveau. Eh bien, c'est recevoir une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Le fait d'appartenir à une église ou d'aller au culte comme ça ne fait pas de vous un chrétien né de nouveau. La nouvelle naissance est une expérience personnelle dans laquelle on donne vraiment sa vie au Seigneur Jésus. Et où là, la parole de Dieu nous dit que désormais, 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un moment dans notre vie où on voit que Dieu nous amène dans autre chose, qu'on recommence à vivre, et à vivre désormais par l'Esprit, alors qu'avant on vivait un petit peu à notre propre gré. Mais la nouvelle naissance n'est pas la destination. Et bien souvent, en tant qu'Église, que chrétien, même en tant que pasteur, nous prêchons le salut, nous amenons les gens à la nouvelle naissance. Et c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup plus de choses que Dieu veut faire que de sauver les gens. Donc nous devons bien sûr chercher à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous devons chercher à conduire les gens au pied de Jésus pour qu'ils viennent à lui, qu'ils soient sauvés. Mais maintenant, ce n'est pas que la nouvelle naissance que nous annonçons. Jésus a dit d'annoncer le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est comme si vous entrez et puis vous êtes à la porte. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je suis la porte. Donc le passage, c'est Jésus. Et maintenant que vous êtes à la porte, il ne s'agit pas juste de rester là et puis de rester à la porte. Hein? Quand vous allez chez quelqu'un, il vous ouvre la porte, vous décidez d'entrer, c'est très bien. Mais on reste rarement sur le seuil de la porte. Si vous accueillez quelqu'un, ce serait un peu malvenu que la personne reste juste à la porte. Oui, non, mais entrez, et on a envie que la personne vienne, on veut l'accueillir, on veut l'installer confortablement. Pourquoi pas, on veut lui servir quelque chose à boire. Bon, on accueille la personne. Et de la même façon, Dieu ne désire pas seulement que nous soyons à la porte. Dieu désire que nous venions pleinement goûter à tout ce qu'il a préparé pour nous dans son royaume. Amen. Et nous sommes invités et nous pouvons pleinement entrer dans les choses du royaume de Dieu. Et vraiment, le désir de nos cœurs, c'est de le faire et d'amener les gens à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent trop limité. Et ce que nous devons prêcher, c'est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a des bénédictions spirituelles. Dans ce royaume, il y a des bénédictions pour notre corps. Et dans ce royaume, il y a des bénédictions aussi pour ce qu'on appelle notre âme, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, notre intelligence. Parce que lorsque Dieu nous sauve, bien aimé, nous on a l'habitude de dire le salut des âmes. Mais ça c'est un petit peu l'habitude du langage. Mais quand Dieu vous sauve, il ne sauve pas seulement votre âme. Dieu vous sauve tout entier. Et quand la Bible parle du salut, elle ne parle pas que du salut de l'âme pour l'éternité, mais elle parle de salut, elle parle de guérison, elle parle de restauration, elle parle de bien-être, elle parle de bénédiction à tous égards, esprit, âme et corps. Donc nous devons aspirer à vraiment expérimenter la bénédiction de Dieu dans tous ces domaines, et dans le domaine spirituel notamment, nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous assister, pour nous conduire et pour nous amener dans ce chemin qui va nous faire vivre petit à petit, progressivement et de plus en plus, tout ce que Dieu a préparé pour nous dans son royaume. Amen. Donc aujourd'hui, si quelqu'un d'entre vous ou d'entre nous n'était qu'à la porte, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est en train de vous dire « Viens, entre !»
Amen.
Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des moments où c'est comme si le Saint-Esprit me disait « Viens, allons encore un peu plus loin !» Et vous savez, ça ne tient qu'à nous-mêmes. Dieu lui désire que nous vivions pleinement tout ce qu'il a préparé. Maintenant, à nous aussi de simplement entrer dans ces choses. Dieu ne va pas vous forcer, mais Dieu vous invite. Alléluia. Et on veut vraiment entendre l'invitation. Et je sais que par le Saint-Esprit, on va pouvoir entendre, on va pouvoir être interpellé par Dieu et commencer à expérimenter des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Amen. Je ne sais pas si ça vous intéresse de vivre des choses nouvelles avec Dieu.
Amen.
Hein? Moi, ça m'intéresse. Et vous savez, si nous voulons être une source de transformation dans le monde dans lequel nous sommes, et si ici, dans cette région, vous voulez amener quelque chose d'autre que la mort, la morosité, ces choses-là qui dominent ici, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin vous-même d'être transformé pour que maintenant vous puissiez aussi refléter ce que vous avez reçu et devenir une source de bénédiction pour l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Amen. Parce que Dieu ne va pas faire tout le travail à travers seulement quelques pasteurs ou ministères qui vont venir. Dieu veut se servir des hommes et des femmes tels qu'ils sont et là où ils sont. Et quand Dieu envoie quelqu'un vers vous, comme nous maintenant, ce n'est pas pour qu'on fasse les choses entre vous à votre place, mais c'est pour vous aider et vous motiver et vous conseiller, si on peut dire, à ce que vous entriez vraiment dans ce que Dieu veut que vous fassiez ici. Parce que Dieu utilise tous ses enfants, et la Bible dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est à l'endroit où vous êtes que vous êtes appelé à éclairer. Et quand nous voulons vraiment entrer dans ces choses-là, nous qualifions pour que Dieu commence à faire son travail et à ce que le Saint-Esprit agisse en nous. Il est de nouveau, le Saint-Esprit est en nous. Et maintenant, nous devons aussi chercher à ce que sa présence puisse accomplir le but pour lequel elle a été envoyée dans notre vie. Jean chapitre 16, et les versets 12. Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qu'il a, de ce qui est à moi, pardon, et qu'il vous l'annoncera. Donc là, Jésus annonce encore la venue du Consolateur, à savoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité. Et vous savez, dans la Bible, le parle ici du Consolateur, en réalité, dans le texte original, c'est le terme parakletos. Et ce mot parakletos, il y a un mot français, ça peut être paraclet ou paraclet, et on ne l'utilise pas beaucoup, mais en fait, ça veut dire, ça ne veut pas dire seulement consolateur, ça veut dire une aide, un assistant, un conseiller, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, on pourrait dire un entraîneur ou un coach, comme pour les sportifs. Dieu ne donne pas seulement quelqu'un qui nous console, mais Dieu nous donne quelqu'un qui fait un ensemble d'actions dans notre vie, qui nous amène à avancer, et comme on le voit verset 15, à recevoir pleinement tout ce qui est à Jésus, qui lui-même a reçu tout ce qui est au Père. Donc si on veut résumer, tout ce qui est à Dieu doit être à nous. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous conduire jusqu'à ce que nous expérimentions cette vérité. Le Saint-Esprit nous a été donné, et il désire que nous puissions avancer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Ça, c'est une très bonne chose. Et comme vous l'avez vu maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais au-delà seulement d'avoir reçu le Saint-Esprit en nous, il s'agit, selon Actes 1:8, comme nous avons dit, que nous recevions aussi cette puissance qui doit survenir sur nous. Et là, c'est déjà une étape supérieure. J'aimerais dire, sans diminuer la chose, que recevoir le Saint-Esprit en nous, on n'y est pas pour grand-chose. Parce que d'office, quand nous acceptons de venir à Jésus, lui, il nous fait ce cadeau, il nous donne le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais maintenant, il dépend de nous que nous expérimentions plus de choses avec lui ou pas. Et Dieu désire envoyer sur nous cette puissance, le Saint-Esprit, et nous devons désirer l'expérimenter. Donc la prochaine étape, après naître de nouveau et avoir le Saint-Esprit en nous, c'est maintenant que le Saint-Esprit vienne sur nous. Et là, on arrive à cette expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, ou le baptême dans le Saint-Esprit, qui est un enseignement profondément biblique. Et j'aimerais qu'on s'y intéresse un peu, parce que même s'il peut y avoir des gens de différentes églises, de différentes sensibilités, je ne sais pas, peut-être même parmi nous, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une invention du mouvement de Pentecôte, ou des assemblées de Dieu, ou des charismatiques. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ok ? Et nous avons besoin de rechercher à vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Et moi, souvent, on me dit, oui, vous êtes quoi ? Vous êtes protestant, vous êtes évangélique, vous êtes charismatique, pentecôtiste. Et moi, je leur dis, je fais tout ça à la fois. Parce qu'au fil du temps, et au fil des années, si vous regardez un peu l'histoire de l'Église, bon, je pense qu'il y a tout un cours d'histoire de l'Église, mais on a eu l'Église primitive dont nous parle la parole de Dieu, qui vivait pleinement la puissance du Saint-Esprit, il y avait des miracles, tous les jours les gens se convertissaient, il était des sources de transformation là où ils étaient, Dieu se glorifiait. Mais après, au fil du temps, il y a eu un déclin de l'Église aussi. Et puis, petit à petit, les hommes ont commencé à mettre les choses un petit peu à leur sauce, et puis on est arrivé à l'espèce de royaume, des forteresses de l'Église catholique universelle, et qui a fait certaines choses, et on voit qu'il y a eu quand même comme des périodes d'ombre aussi dans l'histoire de l'Église, où l'Église, on ne parlait plus des miracles, on ne parlait plus de la puissance de Dieu, c'était devenu tout simplement une religion. Mais Dieu, lui, n'avait pas encore fini avec nous. Et même quand les hommes, ou certains hommes, ou certaines personnes ont laissé la puissance de Dieu s'étouffer en faisant prévaloir la chair plutôt que l'esprit, Dieu, lui, avait toujours son désir et sa volonté de s'élever une église glorieuse, une église puissante et une église qui transforme ce monde. Et pour faire ces choses-là, Dieu a suscité des hommes au fil des siècles qui ont ramené ou qui ont redécouvert certaines vérités bibliques et qui nous ont, au fil du temps, permis de retrouver et de vivre des bénédictions qui avaient été perdues. Et ce n'est pas que Dieu ne voulait plus les donner, c'est que les hommes s'en étaient tout simplement écartés. Et la première grande réforme, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la réforme protestante, avec des gens comme Luther et Calvin, qui étaient là et qui disaient, non mais attends, quand tu lis la Bible, on ne peut pas comprendre que le salut, il faille acheter quelque chose pour être sauvé. Parce que la vie finalement, c'est le salut par la foi. Et donc ces hommes-là ont commencé à repérer la vérité du salut en disant non, on n'est pas sauvé par les œuvres, comme l'enseignait l'Église de l'époque, mais on est sauvé par la foi. Et ils ont commencé aussi à remettre la Bible entre les mains des croyants. Parce qu'auparavant, c'était seulement le clergé qui avait la Bible et qui enseignait à sa manière le peuple, et puis les gens n'avaient pas accès à la Bible. Mais dans tout ce mouvement, après, il y a eu l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg, et cette invention-là, elle a été inventée pour publier la Bible. Hein, aujourd'hui, il y a des livres, des dictionnaires, il y a même des mauvaises choses qui sont imprimées, mais il faut savoir que l'invention elle-même, au début, c'était parce que les gens se disaient « Comment est-ce qu'on peut faire pour que tous les croyants aient la Bible ?» Et ils savaient très bien que la recopier page par page, c'était impossible. Hein? Et donc ils ont inventé un moyen de reproduire rapidement la Bible et de la diffuser. Donc, la Bible a été diffusée, et puis c'était de nouveau le salut par la foi. Et après, eux, ils se sont un petit peu arrêtés à ça. Et plus tard, il y aura Dieu qui va susciter d'autres hommes qui vont dire, mais attends, selon la Bible, le baptême, normalement, c'est quelqu'un qui croit et qui demande à être baptisé, et puis il va avancer dans sa vie chrétienne. Donc on ne peut pas baptiser un bébé, puisque le bébé, il n'a rien demandé. Et donc on a eu ce mouvement avec les baptistes qui ont dit, non, on va arrêter de baptiser le bébé, parce que ce n'est pas l'enseignement biblique. Hein, c'était lié à une situation où on voyait qu'il y a beaucoup d'enfants qui mouraient. Donc les religieux de l'époque, ils avaient dit, pourquoi les baptiser tout de suite pour qu'ils soient sauvés? Si quelqu'un n'a pas connu certains enseignements, Dieu ne va pas lui reprocher parce qu'il ne connaissait pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'ignorance. Hein. Parce que Dieu désire que nous apprenions le maximum de choses pour pouvoir nous bénir et pour que nous soyons une bénédiction. Donc, il y a eu ça, il y a eu les baptistes, et puis un petit peu plus tard, il y a eu comme ça des mouvements avec les évangélistes qui allaient, qui parcouraient partout, et qui recommençaient à prêcher l'évangile avec des miracles, avec des guérisons, mais ils étaient encore seulement dans la foi. Hein, des gens qui étaient des protestants maintenant, des baptistes si on veut, et puis prêchaient, et ils avaient des guérisons par la foi. Mais il n'y avait pas encore la puissance du Saint-Esprit. Et c'est plus tard, au début des années 1900, aux États-Unis, quelque part, dans un endroit qu'on connaît bien sous le nom d'Azusa Street, il y avait une église qui était là, et puis il y a eu un mouvement du Saint-Esprit. Et Dieu est venu vraiment manifester sa présence, la puissance du Saint-Esprit est descendue, les gens commençaient à parler en langue, à prophétiser, et de là est né vraiment un réveil qui est devenu très rapidement mondial, et qui après s'est retrouvé sous l'enseigne des églises de Pentecôte. En fait, j'ai utilisé vraiment ce mouvement, il a vraiment équipé des gens de Saint-Esprit qui maintenant continuent à prêcher l'Évangile, continuent à prêcher ces choses-là, mais avec quelque chose de différent, avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a fait qu'en très peu de temps, ces gens-là avaient déjà atteint quasiment le monde entier. Et donc, le baptême du Saint-Esprit a été redécouvert à cette période-là, mais il n'appartient pas à un mouvement ou à une église, il est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Et maintenant que nous sommes revenus à ces choses-là, il faut que nous désirions les vivre. Vous savez, on ne peut pas faire comme si Dieu n'avait pas restauré ça dans l'Église. On ne devrait pas rester juste comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, au point du salut, et puis négliger les autres choses. Nous devrions, au contraire, dire maintenant que nous sommes sauvés, Seigneur, où est-ce que tu veux que nous allions maintenant? Qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Et le recevoir. Et je vais vous expliquer tout à l'heure que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à faire beaucoup de choses, beaucoup de cinéma ou beaucoup d'affaires, on a juste à recevoir. Parce que tu as préparé des choses et Dieu désire nous les donner. Et si nous aussi nous désirons les recevoir, bien c'est le calcul gagnant et Dieu peut nous donner des choses et les donner en abondance. Et encore au fil du temps, après le mouvement de Pentecôte, on a eu ensuite un peu ce qu'on appelle des réveils de guérison, où les gens ont vraiment une voix d'accent sur la guérison. On a eu aussi le réveil plus récemment de ce qu'on appelle le mouvement charismatique avec vraiment la louange et l'adoration. Hein, parce que même les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit en 1900, ils étaient toujours avec leur petit carnet de cantiques et puis ils chantaient, mais ils ne savaient pas ce que c'était la louange et l'adoration. Parce que pendant tous ces siècles, on avait oublié. Et à un moment donné, Dieu a recommencé à enseigner son peuple qu'est-ce que c'est la louange. Vraiment, on se donne tout entier, on est vivant, on loue Dieu, et puis l'adoration qui nous fait vraiment pénétrer dans les profondeurs de la présence de Dieu et de sa gloire. Donc, ça a été ça. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Dieu continue de restaurer des choses dans son Église. Et j'aimerais vous dire que encore plus que de restaurer les choses de l'Église primitive, Dieu restaure des choses, mais il veut nous amener dans des choses encore plus grandes qui sont attachées à notre appel et à notre époque. Parce que la Bible dit que Dieu vient chercher une église glorieuse, et nous savons que dans les temps de la fin, il y a des choses qui doivent être manifestées. Et je ne vais pas improviser les prophètes de l'Apocalypse, mais nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Et si à l'époque de Jésus, des gens disaient « Jésus revient bientôt », à combien plus forte raison aujourd'hui Jésus revient bientôt ? Nous sommes plus près chaque jour des temps de la fin que nous l'étions la veille. Donc on est dans ces temps de la fin, et dans ces temps, bien aimé, si c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations occultes, si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres du diable, il est d'autant plus vrai que Dieu a un plan, un but et des stratégies pour son Église, pour que la puissance de Dieu soit libérée sur la terre comme elle ne l'a jamais été auparavant. Alléluia. Et nous pouvons être les hommes et les femmes au travers desquels Dieu va bouleverser ce monde. Nous pouvons, mais il ne va pas nous forcer. Mais il le désire. Et si nous désirons vraiment marcher avec Dieu bien-aimé, on ne sera pas déçus. Parce qu'aujourd'hui, on a des pasteurs et des églises qui enseignent « Oh, les miracles, c'était dans le temps parce qu'il fallait que le monde se convertisse rapidement. » Mais depuis que les gens, l'Évangile est allé partout sur la terre, Dieu a arrêté de faire des miracles parce qu'on n'a plus besoin, les gens connaissent déjà que Dieu existe. Oh, la guérison, c'était parce que il n'y avait pas tous les moyens, et puis non, Dieu aujourd'hui ne guérit plus tellement parce qu'on n'a pas besoin du surnaturel. Oui, le parler en langue, la prophétie, c'était dans le temps parce qu'il fallait des signes et des choses. Mais aujourd'hui, tout ça, ça ne nous concerne plus. Moi, je ne sais pas quel livre ils ont lu. Moi, ma fille, c'est pas ça. Et quand la Bible dit, par exemple, dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, moi j'en fais partie puisque je crois. Et la Bible ne dit pas que ceux qui auront cru jusqu'à ce que l'Évangile soit arrivé partout, c'est ceux qui auront cru, tous ceux qui auront cru. Et ensuite il dit en mon nom, ils parleront des nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents, ils parleront de nouvelles langues, j'ai déjà dit, qu'ils s'y boivent un breuvage mortel, il n'en fera pas de mal. Et ça, c'est une liste non exhaustive des miracles que Dieu va accomplir. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, il veut manifester sa puissance bien aimée. Il veut le faire. Donc nous devons balayer tous ces raisonnements religieux, toutes ces choses-là, et n'essayez pas d'expliquer la Bible à la lumière de ce que vous vivez ou ne vivez pas. Commencez à vivre à la lumière de ce que vous enseigne la Bible. Amen. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas encore beaucoup de miracles ou parce qu'on ne voit pas beaucoup de puissance qu'on doit essayer d'expliquer et de diluer la Bible. Si on ne voit pas beaucoup de miracles et pas beaucoup de puissance, ce qu'on doit faire simplement, c'est chercher dans la parole de Dieu, c'est laisser cette parole nous imprégner, mettre la foi dans la parole de Dieu et s'humilier devant Dieu pour dire « Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Seigneur, toi tu dis ça et moi je veux vivre ça. Seigneur, s'il te plaît, utilise-nous. Seigneur, fais-moi entrer dans tes promesses. » Et si nous faisons, Dieu, lui, en face, il va réagir parce qu'il n'attend que ça, si je veux dire. Vous savez, c'est à nous de donner à Dieu l'occasion de faire ce qu'il a prévu de faire. C'est à nous de le faire. Hein? Dieu nous a établis en tant que son Église. Et dans la parole, il est dit que sur l'Église, que c'est à l'Église que Dieu donnait les clés du royaume des cieux. Hein? Quand Pierre a eu cette révélation, on peut regarder ça dans la parole. Hein? Dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera lié dans les cieux. » Amen. Et j'aimerais apporter une petite lumière ici. Moi, la Bible, elle est bien. Parce qu'elle dit au verset 18, « Je te dis que tu es pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Il y a d'autres Bibles qui disent tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il y a des gens qui ont cru que, ok, Dieu a dit que l'église de Jésus-Christ serait bâtie sur pierre, la personne de pierre. Or, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. D'accord ? Et on a l'habitude de représenter Pierre avec son trousseau de clé à la porte du ciel. Alors peut-être qu'il est porté au ciel, je ne sais pas, on verra plus tard. Mais ce que la Bible enseigne ici, ce n'est pas que l'église est bâtie sur pierre. Hein ? Dans le texte original, c'est dit, moi je te dis que tu es Pétros, ça c'est son prénom, le prénom Pierre, et que sur Pétra, c'est un mot qui veut dire pierre, ou rocher, ou caillou, je bâtirai mon église. Mais c'est quoi cette pierre, ce rocher ? C'est la révélation. La révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc c'est sur la révélation de qui est Jésus, de qui est Dieu, et je vais rajouter de ce que Dieu veut faire dans notre vie, que l'Église est bâtie. Donc quand vous reconnaissez et que vous réalisez que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est Seigneur, maintenant Dieu peut commencer à bâtir son Église. Et son église, ça n'est rien d'autre que des pierres vivantes que vous et moi. Hein? L'église, ce n'est pas un bâtiment. On utilise des bâtiments parce qu'ils font un cadre, parce qu'il faut se retrouver quelque part. Mais l'église, ce n'est même pas cette maison ici. L'église, c'est quand nous sommes ensemble au nom de Jésus. Amen. Hein? Et Dieu donc, veut bâtir son église sur la révélation. Et ce que Jésus a répondu, il dit, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père. Hein, Pierre, il a reçu cette révélation tout d'un coup. Oh, tu es Christ, le Fils de Dieu. Et ça ne lui est pas venu de son intelligence ou de sa connaissance. C'est Dieu lui-même qui lui a donné cette révélation. Et si vous vous rappelez le passage qu'on a lu tout à l'heure, qui disait que quand l'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité, et il vous donnera ce que le Père a. Puisque ce que moi-même j'ai, c'est le Père qui l'a, et il vous l'apportera. Donc Dieu peut nous amener aussi la révélation à partir de laquelle il peut commencer à bâtir. Et lorsque nous avons la révélation, selon ce verset, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Et ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Et le « tu » ici ne s'adresse pas seulement à la personne de Pierre. Le « tu » ici, ce que tu liras ou ce que tu déliras, s'adresse à vous et à moi. En fait, il s'adresse à l'Église. Et si nous sommes de l'Église de Dieu, si nous sommes l'Église de Dieu, c'est nous qui avons la clé. Et Dieu qui a toute la puissance et toute l'autorité, et qui a déjà tout accompli parce qu'il a remporté la victoire il y a 2000 ans à la croix, il a déjà joué sa partie. Et il a tout préparé, il a tout arrangé, et puis il nous a donné la clé. Mais maintenant, si lui nous a donné la clé à nous, c'est pas lui-même qui va ouvrir la porte, c'est toi qui as la clé. Vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de vous faire entendre. Dieu nous a donné la clé. La puissance, ce n'est pas nous qui l'a. La capacité de faire des miracles, ce n'est pas nous. Moi-même, je ne peux rien pour vous. Excusez-moi. En tant que personne, je ne peux rien faire pour vous. Mais parce que lui, il a déjà tout accompli et il nous a donné la clé, moi, je peux utiliser cette clé et puis commencer à ouvrir la porte de la bénédiction. La clé, c'est toi qui l'as. Et parce que Dieu t'a donné la clé, ça veut dire qu'il te donne la responsabilité et qu'il te délègue l'autorité et la capacité à toi d'ouvrir la porte avec cette clé. Et que lui ne va pas l'ouvrir à ta place. Amen. Donc quand Dieu a fait naître, a fait bâtir l'Église, il le fait pour donner à son Église l'autorité d'agir sur la terre. Et parce que maintenant il a donné l'autorité à l'Église, il ne va pas le faire lui-même. Hein? J'espère que vous comprenez que Dieu peut agir souverainement, mais il a fait ce choix et cette décision de donner à l'Église la responsabilité et la capacité de déclencher la puissance de Dieu et sa manifestation, ou de ne pas le faire. Et parce que pendant trop longtemps, on a prêché une espèce d'humilité qui n'est pas l'humilité, mais qui est la religion, on est resté aveuglément assis ici à demander « Dieu fait ci, Dieu fait ça, Seigneur fait ça, pitié, faites ceci, pitié, faites cela. » On fait des jeûnes, des prières, on fait des choses qui sont de bonnes choses, mais on les fait de travers. Parce qu'on attend que ça nous tombe dessus. Et pendant ce temps, Dieu est là, en haut, et par son esprit, il essaie de nous parler, mais on est tellement occupé à lui demander de faire et de faire qu'on n'entend même pas qu'il est en train de nous dire « Mais c'est toi qui as la clé !»
Amen.
Et bien aimez-vous ici, sur cette région et sur cette ville, n'attendez pas que moi, Fabien, je fasse quelque chose, n'attendez pas que Dieu un jour fasse tomber le tonnerre du ciel. Vous avez la clé. Alléluia. Wow. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Moi, j'aime me réjouir avec la parole de Dieu parce que quand tu écoutes ce que te dit la parole et que tu manifestes ton accord, en même temps, c'est comme si tu dis à Dieu, « Ouais, Seigneur, ça, je prends. Et ça, je veux. Et je veux le voir dans ma vie. » Et tu appelles la chose à devenir réelle. Donc moi, je vous encourage, pas seulement pour me faire plaisir ou faire plaisir au pasteur ou au prédicateur, mais quand vous écoutez un enseignement et que quelque chose vous parle, manifestez que vous êtes d'accord. Soit vous dites Amen, soit vous dites oui Seigneur, soit vous dites je pense, vous dites merci. C'est ce que vous voulez, mais quand vous recevez, n'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. On n'est pas sous un clocher en disant silence s'il vous plaît. C'est pas n'importe quoi, mais quand la parole de Dieu arrive vers vous, réagissez. Recevez-la et dites Seigneur, je reçois. Amen. Et si vous le faites, ça, vraiment, ça fait déjà que vous-même, hein, parce que vous réagissez, vous le recevez et vous donnez ordre à votre esprit, vous donnez ordre à votre intelligence de recevoir. Vous ne laissez pas seulement la parole passer en disant « Ah ouais, c'est intéressant, c'est bien, et ça passe. » Non, ok, je reçois. Et parce que vous le faites, c'est une prise de position aussi dans l'esprit. Ça veut dire qu'il faut comprendre que tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, ça a aussi des répercussions dans le monde spirituel. Hein, parce que nous sommes dans un monde naturel, nous sommes sur la terre, on peut toucher des choses, etc. Mais il y a aussi un monde spirituel qui nous entoure. Et dans ce monde spirituel, il se passe énormément de choses. Et même à l'instant où nous parlons dans le monde spirituel, il se passe beaucoup de choses. Et nous avons besoin aussi, nous, d'agir et d'interagir dans les autres. Donc, excusez-moi si ça paraît un peu bizarre, mais laissons le Saint-Esprit nous éclairer et nous apprendre à réaliser ce qui se passe autour de nous. On n'est pas des espèces de gens mystiques là qui cherchent des étapes spirituelles, mais il ne faut pas non plus être ignorant et faire comme si il n'existait que ce que nous voyons et ce que nous entendons. Il est temps et il faut que nous commencions aussi à chercher et à connaître et à expérimenter et à vivre et interagir avec le monde spirituel. Et j'essaierai de vous expliquer quelques petites choses à ce sujet, mais vraiment comprenez ça et recevez-le. Quand Dieu dit « Je te donne les clés », c'est « Alléluia, je les reçois ». Je les prends et je vous dis, vous avez la clé. Maintenant, il faut l'utiliser. Et ça, personne ne pourra le faire à votre place. Et même les pasteurs et même les ministères ne pourront pas le faire à votre place. Nous, on peut vous aider, on peut vous encourager, on peut prier pour vous. Mais il y a des choses dans ta vie que tu ne peux faire que toi-même. Parce que Dieu t'a donné la clé à toi. Et vous savez, moi, je suis aussi, outre le service de Dieu, je suis aussi cadre commercial. Et dans une société de distribution. Et donc j'ai la responsabilité de plusieurs magasins. Et dans mes magasins, j'ai des directeurs, j'ai des adjoints, j'ai des chefs de rayon, puis j'ai des employés. Et parce que je donne à mon directeur l'autorité dans son magasin, sur certains domaines, moi qui suis son responsable, je ne vais pas prendre des décisions ou m'ingérer dans certaines choses sur lesquelles je lui ai dédié l'autorité. Parce que je l'ai mis en autorité, c'est lui qui doit agir. Moi, je lui donne les directives. Je lui dis qu'est-ce que j'attends de lui. Je lui dis comment je veux que son magasin soit. Je lui dis quels objectifs, quels résultats il doit avoir. Mais c'est lui qui doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à les avoir. Parce que je lui ai donné l'autorité. Et si lui peut agir sur ses employés ou sur son magasin et tout ça, c'est parce qu'il sait que moi, je lui ai donné l'autorité de le faire. Et de la même façon, si Dieu nous a donné l'autorité, il y a des choses qu'il ne va pas faire à notre place. Par contre, Dieu, et plus spécifiquement par le Saint-Esprit, il nous donne le cadre. Il nous dit voilà où je veux que tu ailles. Voilà comment je veux que tu fasses. Voilà où est-ce que tu veux. Où est-ce que je veux que tu arrives. Voilà les actes que je veux que tu poses, les paroles que je veux que tu dises. Et c'est nous qui avons l'autorité de les dire. Hein? Le Saint-Esprit ne va pas prendre nos lèvres et parler à notre place. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et c'est à nous d'ouvrir la bouche pour parler. Amen. Et on a notre part à jouer. Et nous devons vraiment commencer à laisser le Saint-Esprit travailler davantage. Vous savez, Dieu désire vraiment faire des choses extraordinaires au milieu de son Église. Hein. Et pour ça, il faut qu'il trouve des hommes et des femmes qui relèvent ce défi et qui acceptent d'être utilisés. Qui acceptent non pas d'être des super chrétiens ou des super je ne sais pas quoi, mais tout simplement qui acceptent d'être le canal de l'œuvre de Dieu. Et si vous êtes d'accord d'être un canal, ça veut dire que Dieu va passer à travers vous. Donc ça ne dépend pas de vous, mais vous vous rendez disponible. Maintenant, Dieu peut déverser des choses, et ces choses-là vont vers les autres. Et comme dit un ami, Il dit que quand on a un tuyau d'arrosage, vous faites sortir l'eau, le premier à arroser, c'est le tuyau.
Ouais.
Hein? Et si nous sommes des canaux de la bénédiction de Dieu, donc ce qu'on cherche, ce n'est pas notre propre intérêt, mais on est les premiers bénéficiaires quand on laisse Dieu agir à travers. Amen. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 7, Jésus a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive, et plus loin, il dit de celui qui croit que des fleuves d'eau vive couleront de la terre. Des fleuves d'eau vive, bien aimé. Pas juste une petite gouttelette, pas juste un petit peu d'eau, mais des fleuves d'eau vive. Déjà, des fleuves, c'est quelque chose d'assez important, d'assez vaste, et d'eau vive, donc c'est pas une vieille eau qui est toute moisie, là. C'est une eau vive, une eau fraîche qui fait du bien, qui amène la vie, et la Bible dit jailliront de ce fond. C'est pas, comme je dis, c'est pas des gouttelettes, ça coupe pas, ça jaillit. Il y a quelque chose qui, waouh, Dieu passe à travers nous et il va toucher les gens. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Que nous buvions, déjà pour nous-mêmes, mais aussi que maintenant tout ça, ça commence à couler, à jaillir sur les gens. Et plus nous permettons à Dieu de faire jaillir sa vie à travers nous sur les autres, et plus nous-mêmes nous recevons encore plus et plus et plus de la vie de Dieu. Et la Bible dit qu'il nous a rendus participants à la nature divine. C'est-à-dire que sa nature, en nous, de plus en plus, on devient conforme à lui, on devient conforme à son image, on devient des hommes et des femmes qui ressemblons à celui que nous suivons. Et bien aimé, j'aimerais, je désire pour vous comme pour moi-même que lorsque les gens nous rencontrent, et quand les gens rentrent ici, ils puissent dire cela, ils marchent avec Dieu. Cela, ils suivent Jésus. Cela, ils marchent dans la puissance du Saint-Esprit. Sans qu'on ait besoin de faire des grands discours, mais simplement qu'en nous voyant, ils voient à qui, à quoi est-ce que vous ressemblez, qu'est-ce que vous reflétez, vous, qu'est-ce que l'Église reflète. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu, de Corinthiens 3, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour ça, c'est à nous de nous mettre sur ce chemin-là, d'être vraiment les disciples de Jésus. La Bible déclare qu'un disciple accompli est comme son maître. Il n'est pas à peu près, il est comme son maître. Et le désir de Dieu pour nous, c'est que nous soyons comme lui. Et dans Jean chapitre 5, il dit que nous fassions les mêmes œuvres et des plus grands. Donc déjà, commençons à faire les mêmes, et puis ensuite allons dans les plus grands. Et s'il vous plaît, arrêtez d'être religieux. C'est pas Jésus qui va un jour descendre là au milieu de nous. Oui, dans l'esprit, il y a des choses que Dieu fait. Il envoie ses gens, ses anges qui agissent. Vous pouvez avoir une vision de Jésus. Oui, ça existe et c'est très bon. Mais c'est pas lui qui va venir faire le boulot, bien aimé. Vous avez la clé.
Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Et quand la puissance du Saint-Esprit descend sur nous, c'est parce que nous comprenons que Dieu veut nous revêtir de l'esprit, que nous le désirons. Donc il fait descendre sa puissance sur nous. Maintenant, avec cette puissance, comme acte 1-8, vous serez les témoins. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui sera un témoin, c'est vous. Aujourd'hui, les anges ne prêchent pas, bien aimé. Ceux qui doivent prêcher, c'est vous, les témoins. C'est à nous, l'Église de Jésus-Christ, qui l'a confié la responsabilité, la puissance et l'autorité de faire ces choses-là. Et comme Dieu respecte ce qu'il a établi, il ne l'a pas ingéré dans le domaine où tu l'as autorisé. Il va te dire comment faire, il va te donner la capacité, l'autorité, mais c'est toi qui dois commencer à parler. C'est toi qui dois commencer à te positionner. Et à prendre conscience de qui tu es, de ce que Dieu veut de toi, de ce que Dieu dit de toi, et à le vivre. Alléluia. Et si nous faisons bien aimer, nous allons être vraiment des gens qui allons révolutionner notre monde. Actes chapitre 8, il est dit des disciples qui sont arrivés dans une ville. En fait, les gens ont voulu les accuser. Parce qu'à l'époque, quand les disciples arrivaient quelque part, même s'ils n'avaient pas mis des affiches partout pour dire « grande campagne de miracles avec un tel et un tel », ils arrivaient quelque part, on savait que c'était des disciples de Jésus. On savait que c'était des gens qui étaient revêtus du Saint-Esprit. Et dans Actes 8, quand ils arrivent à un moment, on veut les accuser, on va auprès des autorités, on dit « Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. » Mais pendant qu'on voulait les accuser, en même temps, on rendait témoignage et on reconnaissait qu'ils étaient en train de bouleverser le monde. Et j'aimerais que parmi nous, quand quelqu'un arrive, ils disent « Waouh, ceux qui bouleversent le monde sont ici. » Hein, même si aujourd'hui, des fois, les gens nous regardent un petit peu du coin de l'œil, en disant qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas dans leur petite salle, ces protestants évangéliques. Qu'est-ce qu'on fabrique? On est en train de se laisser former, travailler par Dieu, et bientôt vous saurez qu'est-ce qu'on fabrique. Parce que bientôt, lorsqu'on est en train de comprendre ce que Dieu veut pour nous et qu'on en prend le chemin, la gloire de Dieu va tourner au milieu de nous. Et le temps est là, bien aimé, et il est imminent, c'est à nous de le rendre possible maintenant. Le temps est là où la gloire de Dieu doit être remanifestée avec puissance dans son Église. C'est le moment. C'est pas pour dans 50 000 ans. C'est pas seulement le jour où Jésus apparaîtra dans le ciel et qu'il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement que les gens verront la gloire de Dieu. Bien aimé, les hommes et les femmes de ce monde et de ces, même de cette nation de France et de cette région doivent et attendent et soupirent, selon la Bible, après la révélation des fils de Dieu. Ils ne soupirent pas après des gens qui parlent seulement de la Bible à longueur de journée. Ils ne soupirent pas après des gens qui leur disent « tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça ». Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Et qu'est-ce qui caractérise leur fils de Dieu? C'est la gloire de Dieu. Hein? Et dans les apôtres, ils disent que leur témoignage ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur des démonstrations de Dieu et de puissance. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il est écrit ce témoignage que nous avons contemplé sa gloire en parlant de Jésus. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc il y a une gloire qui est sur le Fils et sur les fils. Et nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et si nous sommes ses fils et ses filles, sa nature est en nous, donc elle doit grandir et sa gloire doit apparaître sur nous.
Amen.
Et moi, je désire pour vous, si vous acceptez ça et que vous prenez le chemin, que quand quelqu'un entre ici, bien aimé, il soit saisi par la présence de la gloire de Dieu. Et qu'avant même qu'on ait le temps de prêcher ou de vous dire un truc, la puissance du Saint-Esprit le saisit et il est interpellé, il est visité et il donne sa vie au Seigneur. Et après, on explique, voilà ce qui vient d'arriver. Amen. Et je sais que si nous nous connectons à ce que Dieu veut faire et si nous aspirons vraiment à cette puissance de Dieu dans notre vie par le Saint-Esprit et que nous nous laissons conduire, bien aimé, ça sera beaucoup plus facile d'évangéliser. Ça sera beaucoup plus facile de prêcher, de faire le culte, parce qu'on ne va pas se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. On aura plus d'assurance et on saura que de toute façon Dieu va confirmer sa parole. On saura que de toute façon la présence du Saint-Esprit est dans notre vie. On saura qu'on est revêtu du Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Et on va tout simplement faire ces choses-là et voir les choses se manifester. C'est si vous bagarrez un peu et que vous n'avez pas beaucoup de miracles. Bon, on ne va pas se juger et puis se jeter la pierre et se dire, bon, on n'est pas des bons chrétiens, on n'est pas ça. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est reconnaître la situation et dire au Seigneur, nous avons besoin de ça. Est-ce que Dieu sait qu'il nous montre par le Saint-Esprit, il nous éclaire, il nous fait passer dans la parole, il nous montre des choses dans notre vie aussi que nous devons parfois régler et ajuster autrement pour que nous puissions entrer dans ces choses-là. Mais ce qu'il faut garder toujours à l'esprit et garder pour acquis, c'est que c'est la parole de Dieu qui fait autorité. Et quand Dieu a parlé, c'est qu'il veut faire ce qu'il a dit. Et plus encore que de vouloir le faire, il l'a déjà fait. Parce qu'il y a 2000 ans à la croix, il a dit une parole, tout est accompli. Donc tout est accompli. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et un petit peu plus loin, verset 10, il est dit que Dieu avait le projet de rassembler en Christ les choses célestes et les choses terrestres. Ce qui veut dire qu'en Christ, ce qui est vrai au ciel doit devenir vrai sur la terre. Alléluia. Donc si Dieu dit qu'il veut nous revêtir du Saint-Esprit, qu'il veut manifester sa gloire dans les lieux célestes, c'est accompli. Si Dieu nous dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » ou que c'est par Seigneur Christ que nous avons été guéris, c'est parce que dans les lieux célestes, c'est accompli. Quand Dieu dit « Je veux que tu prospères à tous les égards, qu'on prospère ton âme, c'est parce que dans les lieux célestes, nous sommes prospères. » Alléluia. Mais parce que c'est dans les lieux célestes maintenant, la clé qu'il nous a donnée, nous devons l'utiliser pour que du ciel, ça vienne se matérialiser. Alléluia. Amen. Alors, désirons-nous, recherchons, aspirons à ce que Dieu puisse vraiment se glorifier. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une de ces bénédictions spirituelles que Dieu a préparées pour son peuple. Et même si je ne critique pas d'autres chrétiens qui se tiennent écartés du baptême du Saint-Esprit, je ne peux que encourager chacun à le désirer et à le rechercher. Parce que si Dieu a créé cette bénédiction, c'est parce que c'est justement une bénédiction. Et nous devons désirer d'expérimenter. Donc, le baptême, c'est quoi? Un baptême, c'est une immersion. c'est d'être recouvert, d'être complètement imprégné de quelque chose. Et quelqu'un utilisait cette image, il disait que parfois Dieu fait avec nous comme avec le cornichon. Je crois que vous faites des cornichons. Mais les cornichons, vous savez, c'est ces petits trucs verts là, et on les trempe dans du vinaigre, hein, et dans un mélange, et ça reste là pendant longtemps, longtemps. Et plus ça reste là, plus ça devient tendre et meilleur c'est à manger. Hein, et quand vous mangez le cornichon, vous sentez non seulement que vous mangez ce légume, mais vous sentez qu'il y a la roue qui est entrée jusqu'à l'intérieur. Donc quand vous marinez votre viande, vous la laissez un moment jusqu'à ce que vraiment le goût, les arômes, les épices rentrent comme ça dans la viande. Et nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu et d'être plongés, immergés comme les cornichons jusqu'à ce qu'on soit rempli, qu'on ait le goût et qu'on reflète et qu'on découle, qu'on découline sur ce monde de la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. Et vraiment, encore une fois, je ne traite pas de cornichons, mais si vous retenez l'image, vraiment, soyons des cornichons. À se laisser vraiment immerger, baptiser dans le Saint-Esprit. Alors, baptiser, c'est pour cette immersion. Hein, on peut s'utiliser l'image que si vous prenez un tissu que vous congelez dans la couleur, ben, quand vous le ressortez, le tissu n'est plus comme il était avant. Hein, la couleur est vraiment imprégnée quand on fait une peinture. Donc, c'est ce que Dieu désire pour nous, être baptisé du Saint-Esprit. Donc, quand on est sauvé, on reçoit le Saint-Esprit en nous. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant cette expérience qu'on fait avec Dieu, où le Saint-Esprit est sur nous, il nous caractérise, il est là, et on sait que désormais, on est baptisé, on est dans sa présence. Et le Saint-Esprit est dans notre vie. Et j'aimerais qu'on regarde plusieurs passages de l'Écriture ensemble qui promettent, qui annoncent ce baptême du Saint-Esprit. Pour que vous voyez avec moi que c'est vraiment quelque chose que Dieu a préparé, qu'il a désigné et qui nous concerne. Donc, premier passage qu'on peut prendre, c'est le prophète Joël. Joël chapitre 2 et au verset 28 et 29. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc ça, c'est une prophétie sur le jour de la Pentecôte. Hein, elle s'est déjà réalisée. Et puis quand Pierre a expliqué aux gens qui étaient là ce qui est en train de se passer, parce qu'il parle en langue et tout ça, il a utilisé ce passage. Mais ce passage est vrai pour le jour de la Pentecôte, mais il est vrai pour aujourd'hui, pour notre temps. Dans notre temps, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Et ça va nous amener à prophétiser, à avoir des songes, des visions, à être recouverts, à avoir l'esprit répandu sur nous. Ensuite, l'évangile de Matthieu, chapitre 3 et verset 11. On a le témoignage de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc là, il parlait de Jésus. Hein, Jean-Baptiste, pour vous situer, c'était donc un prophète de l'époque. On parle de lui au début du Nouveau Testament, mais en fait, il fait encore partie de l'Ancien Testament. Hein, Jean-Baptiste, c'est un descendant des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, il y avait des catégories de personnes, et les sacrificateurs, c'était ceux qui faisaient le lien entre Dieu et les hommes. Et Jean-Baptiste était le dernier sacrificateur. Et sa mission, c'était de prêcher et de baptiser les gens pour qu'ils se repentent. Mais il n'amenait pas encore les gens au salut, parce qu'il fallait que Jésus vienne. D'accord ? Et ensuite, Jésus vient, et Jean-Baptiste dit: il viendra et vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. En fait, si vous voulez, nous on a l'habitude de dire qu'il y a l'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance, et puis le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance. C'est à peu près vrai. Donc en fait, même dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs alliances, il y a plusieurs temps, avec des moyens dont Dieu communiquait avec les hommes, etc. Et il faudrait presque dire qu'il y a l'Ancien Testament, il y a la transition, et puis il y a le Nouveau Testament. Hein, et cette transition, c'est un petit peu les évangiles. Hein, parce que comme j'ai dit, pour être sauvé, né de nouveau, et au bénéfice du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et ce n'est possible qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, gardez à l'esprit que quand vous lisez les évangiles, il y a des enseignements qui sont enseignements de Jésus, qui sont bons et valables pour nous. Mais il y a aussi certaines choses qu'il faut comprendre à la lumière du moment et de l'époque dans laquelle Jésus nous a donné. Il n'y a pas tout qui est spirituellement tel quel quand il parle sur la loi, c'est parce qu'il sait très bien que les gens de l'époque, ils étaient tellement imprégnés dans la loi. Hein? Et d'ailleurs, vous verrez que des gens comme les pharisiens, ils étaient tellement accrochés à la loi de Dieu et à la parole qui était dans l'Ancien Testament, qu'ils n'ont pas su reconnaître la matérialisation, la manifestation qui était la venue de Jésus, et qu'ils ont même combattu Jésus. Mais nous qui avons maintenant la parole de Dieu qui vient à nous et le Saint-Esprit, il faudrait aussi que nous reconnaissions l'œuvre, l'action et la puissance du Saint-Esprit dans notre temps. Amen. Et que nous ne la combattions pas à la lumière de nos compréhensions, de nos pensées religieuses. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, priait pour eux et il leur disait que Dieu illumine les yeux de vos cœurs et qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance pour que vous compreniez quel est l'héritage que vous avez. Donc Dieu désire vraiment nous faire comprendre et nous pouvons chercher dans la parole et comprendre et maintenant bénéficier de ces choses. Donc la promesse, elle a été donnée dans Joël, elle a été donnée par Jean-Baptiste, et comment on pourrait lire l'évangile de Luc, chapitre 11, et versets 9 à 13, où Jésus enseigne, et il dit, Luc 11, versets 9 à 13, « Moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, il donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, il donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc là aussi, on a clairement la promesse du Saint-Esprit. Ensuite, Luc chapitre 24. Luc 24, verset 49. Luc 24, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc là aussi, on a clairement la promesse d'être revêtus d'une puissance. Ensuite, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 7. Et verset 37 à 39, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc Jésus annonce déjà qu'à un moment donné, vous recevrez le Saint-Esprit. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En fait, la condition, c'est de croire en lui. Et si vous croyez en lui, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ok ? Ensuite, dans Actes 2, verset 32, on arrive à ce passage de la Pentecôte. Et il est dit ici, on va prendre le verset 38 plutôt, Actes 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc là aussi, il est clairement énoncé que cette promesse est pour les gens qui étaient là en face de Jésus qui l'écoutaient, mais aussi pour ceux qui sont au loin. Aussi pour les enfants, et j'ai envie de dire pour les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, jusqu'à nous, la promesse du Saint-Esprit est là. Amen. Donc c'est clair que Dieu veut nous revêtir du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un me dit non, c'est pas la volonté de Dieu, il dit réfistatible, réfistatologie. Dieu veut, Dieu désire que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Et ça concerne tous les croyants nés de nouveau. Amen. Mais si nous sommes nés de nouveau maintenant, nous devons recevoir. Et cette promesse s'est réalisée déjà dans la Bible. Et nous allons observer quelques réalisations de cette promesse. Dans Acte 2, toujours, si vous êtes restés là. Acte 2, c'est la Pentecôte. Acte 2, on va lire les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc là, on voit que la promesse déjà s'est réalisée pour ces gens-là, qui étaient là. Hein, on sait qu'ils étaient en prière, et puis ils étaient ensemble dans le même lieu, et maintenant tout d'un coup, du ciel vint un bruit de vent, et il remplit la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, et remarquez, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et vous savez, Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Et Dieu n'envoie pas son Saint-Esprit seulement de manière globale, comme ça. Dieu veut envoyer sa puissance et son esprit sur chacun d'entre nous. Alléluia. Et il veut que sa puissance arrive et agisse sur chacun d'entre nous. Et verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas seulement que le Saint-Esprit était là, c'est pas seulement qu'ils ont goûté au Saint-Esprit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et Dieu désire que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et au verset 15 d'acte 2, toujours, on voit que maintenant Pierre va expliquer ce qui s'est passé. Parce que les gens qui étaient là n'ont pas bien compris et se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Est-ce qu'ils ont déjà bu du vin? Ils se sont déjà enivrés à cette heure-ci? Hein, on en fait déjà à les critiquer parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais au verset 15, Pierre explique, non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais voici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours du Dieu, je répondrai mon esprit sur toute chair, et puis c'est le plus prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes, etc. Donc là, clairement, il le dit. La promesse, elle s'est accomplie. Donc c'est le Saint-Esprit qui a été répandu. La promesse se réalise à la Pentecôte, ce que Jésus leur avait dit d'attendre, de rester là jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance. Et c'est à partir d'acte 2 et la Pentecôte que maintenant les disciples vont commencer à aller dans la puissance du Saint-Esprit et que l'Église va commencer à se répandre. Hein? Il nous est dit là que ce jour de la Pentecôte, le nombre des disciples a augmenté de 3000 âmes. Et ce n'est pas seulement le nombre des convertis qui a augmenté, c'est le nombre des disciples.
Amen.
Et nous sommes appelés à faire pas des convertis, nous sommes appelés à faire des disciples.
Amen.
Et à être même des disciples. Un converti, c'est quelqu'un qui a adhéré, qui a cru, peut-être qu'il croit, mais c'est quelqu'un qui ne vit pas et qui ne reproduit pas ce qu'il a appris. Un disciple, c'est quelqu'un qui a cru, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement, c'est quelqu'un qui regarde son maître agir et qui maintenant va et au bout d'un moment refait ce que son maître fait et réenseigne ce que son maître enseigne.
Amen.
Et nous avons bien aimé l'appel de faire comme Jésus a fait. Et le même esprit de Dieu qui était sur Jésus, lorsque dans Luc 4 il déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire telle et telle chose, à savoir annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, délivrer les captifs, etc. Ce même Saint-Esprit est sur nous et il nous voit pour faire la même chose et pour changer le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et s'il était sur Jésus, notre maître, et que nous disons que nous sommes ses disciples, bien-aimés, montrez-moi que vous êtes disciples de Jésus. Amen.
Amen.
Un disciple, c'est quelqu'un, quand vous le voyez, vous savez qu'il est disciple de cette personne-là. Et dans l'Antiquité, c'était facile de comprendre ce langage parce qu'il y avait des philosophes, il y avait des gens comme ça, qui avaient des disciples. Et quand vous les voyez, quand vous parlez avec eux, vous savez qu'ils suivaient parce qu'ils se comportaient de la même façon, parce qu'ils avaient le même langage. Et nous devrions être reconnus comme les disciples de Jésus parce que nous avons le même langage, parce que nous avons le même comportement et parce que le même Saint-Esprit est sur nous et confirme la parole de Dieu par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et quand la promesse s'est accomplie ici, à la Pentecôte, ça n'était que l'exemple et la première fois, mais ce n'est pas la dernière. C'était, si vous voulez, l'inauguration de la libération du Saint-Esprit sur la vie des croyants. Maintenant, à partir de ce jour, la Pentecôte est disponible pour chacun tous les jours. Dieu désirait maintenant que la promesse qui a été accomplie au jour de la Pentecôte devienne aussi une réalité tous les jours jusqu'à la fin du monde pour ceux qui allaient croire. Et ce même Saint-Esprit, avec cette même puissance, est disponible aujourd'hui pour vous et pour moi et pour chaque enfant de Dieu. Amen.
Amen.
Et nous devons rechercher et le recevoir. Donc ça, c'est la Pentecôte, c'est la première fois. Et on va voir maintenant plusieurs passages dans l'Écriture où les gens reçoivent ce baptême. Actes chapitre 8. Alléluia. Vous savez ce que j'aime bien, moi, petite parenthèse, Des fois, quand je dis aux gens que va faire un enseignement, vous avez des gens qui se disent enseignement, études bibliques, on va encore s'ennuyer, là. On va encore nous baratiner des trucs, il va nous balancer des versets. Hein, des fois, on est un peu de vision un peu bizarre sur l'enseignement. Vous savez, moi, je sais pas pour moi, c'est Dieu qui appelle et qui moins les gens, mais moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Mais je ne sais pas que je suis ennuyé. Et moi-même, je ne m'ennuie pas quand j'enseigne. Parce que quand vous prenez la parole de Dieu, que vous la fouillez, que vous comprenez ce que Dieu vous dit, bien aimé, vous êtes extrêmement béni. Donc il faut qu'on s'attache à ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur des conférences, des séminaires. Au contraire, il faut y aller avec dans nos cœurs l'attente que Dieu nous parle et que Dieu nous touche. Hein? Parce que la parole de Dieu, c'est la semence. Et comme la parole incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette semence, si nous la recevons, elle change les choses dans notre vie. Ok? Donc l'enseignement ou l'étude biblique, c'est pas un moment ennuyeux où on est là comme à l'école. Oui, on est à l'école, mais c'est pas ennuyeux parce que Jésus, notre maître, n'était pas ennuyeux. Et parce que Jésus, quand il enseignait, il n'ennuyait pas les gens, il changeait leur vie. Moi, quand j'enseigne, je prie et je désire que je n'ennuie pas les gens, mais que je change leur vie. Amen. Et si vous recevez la parole et l'enseignement, votre vie est en train de changer. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais d'ici très peu de temps, vous allez voir que mince, comment j'étais là assis, ça avait l'air de rien, mais l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Et l'Esprit de Dieu travaille autant à l'intérieur de toi quand tu es réceptif à la parole qu'il ne peut le faire dans des moments qui nous paraissent un peu plus excitants et intéressants. Vous savez, les nuits de prière, les nuits de louange, tout ça, c'est très bon, c'est excellent, je le pratique et j'aime beaucoup. Et j'aime me Je ne fais pas attention au terme parce que ça sent bien compris. Je ne vais pas dire me défouler ou m'exciter dans la présence de Dieu. J'aime danser devant Dieu, j'aime sauter dans tous les sens, j'aime me réjouir parce que Dieu dit à son peuple, réjouissez-vous. Et quand tu te réjouis, tu permets à Dieu de te bénir et d'agir dans ta vie. Vous m'entendez quand même? Et vous savez, c'est bien, mais il faut vraiment que nous laissions de côté tous les raisonnements religieux. Et que, vous savez, si vous ne passez pas du temps dans la parole de Dieu et dans l'enseignement, ainsi, vous passez à côté de ce que Dieu veut faire pour vous. Hein? Parce que Jésus nous a dit, allez, faites des disciples et enseignez-leur pour que Dieu vous aide. Et si tu n'enseignes pas quelqu'un, tu ne permets pas non plus à Dieu que cette semence maintenant fasse son travail. Hein? Donc quand il y a des histoires d'enseignement, tout ça, venez-y justement aussi excité que vous viendriez à un événement un peu plus dynamique. Parce que moi, parfois, on me dit oui, mais toi, c'est marrant. Vous savez, j'enseigne aussi à l'école biblique, et même là au Congo, j'ai une école biblique. Et puis, après, je disais, mais vraiment, quand vous enseignez, c'est pas comme d'habitude. Et quand je dis ça, je dis pas ça maintenant pour ma gloire, mais je veux dire que nous devons chercher à refléter Jésus. Et à amener la parole de Dieu de façon vivante et de façon pertinente. Hein? Parce que si on est là, simplement comme ça, avec un discours religieux, avec une manière de dire les choses, c'est, Dieu ne s'intéresse pas à du cinéma, à de la musique. Il n'en a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, il y a trop de gens, même, excusez-moi, mais qui se réclament du réveil, qui ont seulement des gestes, des mimiques, mais vous sentez qu'il n'y a rien derrière. Et ce que Dieu veut faire aujourd'hui, et ce qu'il nous invite, c'est à ce que nous vivons, ce que nous expérimentons et ce que nous reflétons, ce ne soit pas seulement une manière de faire, ce ne soit pas seulement un cinéma, ce ne soit pas seulement des habitudes, hein, mais ce soit vraiment couvert et libérateur de la puissance. Amen. Que quand on est dans la louange et l'adoration, si on danse ou si on saute, ce n'est pas parce qu'on a envie de se découvrir, de s'exciter, c'est parce que dans nos cœurs, on veut se donner tout entier à Dieu. Et si dans l'adoration, on est là, on lève les mains, on peut être à genoux, couché par terre, c'est pas parce qu'on veut faire comme si on était plus spirituel, mais c'est parce qu'on est vraiment en train de toucher quelque chose à la profondeur de la présence de Dieu. Amen. Et ce qui est important, c'est pas l'apparence, bien aimé, mais ce qui est important, c'est le fruit qui est produit. Hein? Vous avez des gens qui sautent dans tous les sens, qui crient, qui pleurent, qui font tout ça, mais au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous voyez les gens sont presque pires qu'au début. Mais ils se sont dit parce que quand on pleure ou quand on rit, on est dans le réveil, on va faire ça. Et ils font ça, mais ils font ça de même. Et le message que je vous apporte en vous disant aspirez au Dieu du Saint-Esprit, je crois que ça va vous dire, faites comme si vous avez le Saint-Esprit, je vous dis, recevez le Saint-Esprit et manifestez vraiment sa puissance, mais quelque chose de vrai. Et le monde cherche quelque chose de vrai. Il y a des endroits où vous trouvez des choses, mais quand vous êtes là, vous sentez dans votre esprit, il n'y a rien, c'est sec. Et vous avez d'autres gens parfois qui ont l'air tout innocents, l'air de rien, mais
il y a une présence de Dieu. Tiens, ils sont là tout simplement, puis la présence de Dieu est là. Donc ce que nous faisons et ce que nous manifestons, faisons-le conduit par l'Esprit de Dieu. Faisons-le vraiment nous laissant emporter par l'Esprit de Dieu.
Et il y a des choses que Saint-Esprit peut nous faire sauter, crier, faire des choses un petit peu bizarres, mais c'est le Saint-Esprit et ça va libérer une puissance et on va voir que ça a changé quelque chose dans notre vie. Soit nous-mêmes, soit aux gens qui sont autour de nous. On dit vraiment qu'il y a une œuvre de Dieu. Et il y a des jours aussi où on peut être tout simplement là, et m'arriver plusieurs fois de vivre ça, où on adore Dieu, on arrive à un point où on peut même plus rien dire tellement la présence de Dieu est là, et c'est bon, et c'est doux, on a juste envie de se taire, et de laisser le Saint-Esprit parler, et agir au milieu. Et c'est puissant, et Dieu le fait. Et ça veut pas dire que parce que hier, c'était dans le silence, tous les jours, on va s'asseoir, on va se regarder dans les yeux. Il y a des gens, c'est parce que hier vous avez chanté « Viens Saint-Esprit » et puis c'était chaud, vous avez chanté « Viens Saint-Esprit » tous les jours, et puis il ne va rien se passer. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui il est vivant, il est actif et il agit au temps présent. Et la foi, ça s'expérimente au présent. C'est aujourd'hui, c'est l'instant. Donc on ne peut pas faire des espèces de systèmes. On a besoin d'aspirer à ce que le Saint-Esprit soit sur nous et qu'il nous conduise pour que nous puissions entrer dans ses œuvres. Parce que Jésus lui-même, dont nous sommes disciples et que nous voulons imiter, au bon sens du terme, Jésus lui-même dira « Je ne fais que ce que je vois faire le Père ».
Amen.
Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Mais il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voyait faire le Père. Il ne faisait pas ce qu'il voyait faire les autres. Il ne faisait pas ce qu'on lui avait montré qu'il serait pour le faire. Il ne faisait pas ce qu'on avait l'habitude de faire. Il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Amen. Donc apprenons aussi à regarder ce qui se passe, apprenons à regarder vers le Père et à faire ce que nous voyons faire. Alléluia. Et le moyen d'y arriver, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Hein? La Bible déclare, ne vous enivrez pas de là, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand elle dit soyez remplis du Saint-Esprit, en réalité, soyez continuellement en train de vous remplir du Saint-Esprit. Hein? Nous avons notre part. Dieu lui vient, nous donne le Saint-Esprit à nouvelle naissance. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui est disponible et on doit chercher nous à rester rempli du Saint-Esprit. Paul a dit à Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. Le don c'est Dieu qui le donne. Mais vous et moi nous avons la responsabilité de ranimer, de faire en sorte que ça reste vivant en nous et de faire en sorte que ça soit à l'œuvre, que ça soit actif. Et c'est ce qui manque des fois aux gens. Et comme j'ai dit avant, on attend, on demande à Dieu, et Dieu est là en train de dire, mais je l'ai déjà fait là. Hein? Si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, vous n'allez pas lui demander 50 000 fois, alors la personne l'a déjà fait là, tu ne vois pas que c'est déjà fait. Quand ma femme prépare un repas et elle cuisine excellemment bien, quand je range, je ne lui demande pas, prépare-moi à manger s'il te plaît, j'ai faim, prépare-moi à manger mon truc des amis. C'est déjà fait, c'est là. Maintenant, c'est à moi aussi de venir m'asseoir à table et de manger ces bonnes choses. Et Dieu a déjà préparé des choses excellentes pour nous. C'est déjà là, c'est déjà prêt. Viens les prendre. Viens les manger. Viens te régaler avec nous. Viens recevoir ces délices. Alléluia. Et c'est vraiment ce que nous devons faire, bien aimé. Oui, il faut demander des choses à Dieu. Il y a un moment aussi où il faut recevoir ce qu'il nous a donné. Alléluia. Et après, à notre tour, c'est aussi qu'à l'homme donné aux autres que nous avons reçus. Amen. Parce que Dieu est fidèle à cette promesse. On a vu ensemble qu'il nous a donné le Saint-Esprit. On a vu qu'il y a le baptême du Saint-Esprit qui a été promis, qui a été réalisé à la Pentecôte et qui se réalise encore à d'autres moments dans la parole. Et on va peut-être s'en arrêter là pour le moment. Et tout à l'heure, on va finir de regarder ensemble comment, après la Pentecôte, ça n'a marqué qu'une transition, que le début de quelque chose. La Pentecôte, c'est le moment où Dieu a répandu son esprit sur l'Église. Et vous verrez que ça n'était pas un événement isolé, dont on peut dire un jour, il y avait une Pentecôte, il y avait le Saint-Esprit, ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être à leur place. C'était le début de quelque chose. C'est le commencement d'une ère nouvelle dans laquelle Dieu veut agir par la puissance du Saint-Esprit. Et moi, personnellement, il y a une époque où je lisais la Bible et je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être à cette époque-là. Parce que l'église où j'étais, je disais, mais c'est bizarre, il n'y a pas de moral, il n'y a pas les histoires du Saint-Esprit. C'est bizarre ce qui se passe. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu évoluer dans plusieurs milieux et puis ensuite petit à petit, voir des choses se passer dans ma vie et j'aspire toujours à davantage de la réalisation des plans de Dieu dans ma vie. Mais quand vous regardez ça, bien aimé, C'est seulement le commencement. Et aujourd'hui, je ne dis plus que j'aurais aimé être à leur place. Parce que je sais que ce qui est préparé pour nous, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Donc ce qu'on voit dans la Bible, c'est très bon. On le voit, on bénit Dieu pour ça. Et on cherche à le vivre. Mais on ne reste pas coincé sur ça. Aujourd'hui, ça ne serait pas l'idéal qu'on ait juste une Pentecôte et puis qu'elle s'arrête. Parce que si la Pentecôte avait été le seul moment où Dieu a répandu son Saint-Esprit, qu'après c'était fini, ça veut dire qu'il n'y aurait que ces quelques hommes qui auraient reçu son Esprit, et quand ils seraient morts, ça serait mort avec eux. Mais je vais vous montrer tout à l'heure que ce n'était pas fini. La Pentecôte, ça n'était que le commencement de la génération. Et nous sommes ceux qui sommes maintenant au bénéfice de ce qui a déjà été libéré et que nous devrions chercher à vivre. Et ensuite, pour aller encore plus loin avec ça, pour le temps dans lequel nous sommes, on continue tout à l'heure. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.